création sonore.
Ah, cette journée, peut-être une des dernières chaudes de cette année. Je pense à chaque fois quand il fait beau ici, parce que je ne suis pas du tout habituée à 26 degrés à la fin de septembre. À Berlin, d'où je suis venue ici, comme étudiante échange, il fait 9 degrés aujourd'hui. Je ne peux pas m'empêcher d'y trouver un petit malin plaisir. C'était le bon choix de venir ici. Le soleil, les palmiers, les bâtiments en grès qui brillent dans la lumière si directe. Ouais, Bordeaux me rend poétique. Oups, j'étais distraite là. Du coup, salut à tous, je suis Aura et je veux vous amener faire une balade sonore. Je suis nouvelle ici et je veux découvrir la vie bordelaise, les quartiers, les gens, la culture et des endroits secrets, qui sont ma spécialité, car je me trouve souvent trébuchant dans un couloir privé, une gare abandonnée, une ruelle sombre. Peut-être vous vous demandez, mais on connaît Bordeaux déjà, qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Je pense que chaque personne a sa propre perspective très subjective sur une ville. Et la mienne est, entre autres choses, une perspective allemande et berlinoise. Je vais essayer de partager quelques bouts de ma culture avec vous. Et de plus, je suis sûre que quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous n'ont pas encore vu The Magic Train.
Les oiseaux qui viennent manger, ils se disputent quelquefois. Oui, ils se disputent. Ils ont un coup de bec et l'autre il s'en va. Ils se disputent, ils ont leur langage. Ça y est, il y en a un qui est parti, l'autre qui est arrivé. Et c'est comme ça tout le temps, ça n'arrête pas. Ils sont quelquefois 7, 8, 10, jusqu'à 10. C'est tous des moineaux. Enfin, rarement un rouge-gorge, mais il est par terre, le rouge-gorge. Il se promène par terre. Il n'est pas là en ce moment, il ne va pas tarder à venir. Alors il se cache derrière les pots. Il mange les graines que les autres font tomber de là-haut. Il mange lui par terre. Le rouge-gorge, il est souvent par terre et tout seul. Toujours tout seul. C'est très mignon, il est tout petit. Il est tout mignon avec le petit machin là, c'est très mignon. Il est très mignon le rouge-gorge.
Bien le bonsoir, gros gnognons, bastonneurs, frivoles et férus de combat. Aujourd'hui, l'affaire Marguerite va faire trembler les chaumières. Rappelez-vous, Marguerite, la battante émérite qui a écrasé tous les records olympiques. Marguerite, qui est issue d'un couplage génétique, eh bien elle irrite ceux qui sont fadas de mérite et d'éthique, et oui, elle suscite la polémique. Hier, elle commençait une campagne pour militer et propager l'humilité dans toutes les contrées. Elle serait arrivée ce matin dans la ville de Skrogneugneu. Telle une moto avec sur son dos un humain du nom de Motéo, un sacré symbole qu'est cet humain car il vient témoigner de l'importance de se déplacer ensemble. Motéo est descendu dans les rues de Skrogneugneu pour manifester main dans la main avec Marguerite. Ils n'étaient que deux. Deux, c'est peu, mais c'est déjà un début. Leur slogan préféré, je cite, « L'éthique n'est qu'une étiquette, stoppons l'étiquetage ou ce sera le carnage ». Subtil slogan car il fait référence tout autant à l'éthique animale étiquetée qu'à la normalisation humaine. Sauf que les Skrogneugnois ne veulent pas entendre cette alliance maladroite. Les Skrogneugneux sont rapidement devenus violents. Cette manifestation a donc tourné à l'émeute, avec des meutes de vaches étiquetées contre une surhumaine et un motéo. Marguerite a hélas perdu les pédales et a accepté de se battre seule avec les Skrogneugnois. Plus de 200 personnes sont mortes lors d'un maxi combat de boxe dans la ville de Skrogneugneu. Les 15 000 autres habitants sont hospitalisés. La suite, demain. C'était Info Perdu.
Le kilo de viande de rat est à 19,90€ seulement chez Grand Prix.
Comment ? 19,90€ seulement ?
Oui ! 19,90€ seulement !
On va finalement pouvoir partir sur la Côte d'Azur sans hypothéquer la maison.
Super !
Je déteste les pubs.
D'ici, nous avons une vue imprenable sur la cible.
Ce hangar semble bel et bien abandonné et complètement perdu dans le désert. Il n'y a pas un chat. À ce propos, c'est étonnant que nous ayons aucune unité avec nous. Je suppose que c'est pour que nous restions discrets.
Oui, ou alors ça a un lien avec les récentes restrictions budgétaires du gouvernement.
Avec ou sans homme, nous libérerons la fille du président.
Vous êtes toujours aussi enthousiaste, commissaire Biafin. C'est une bonne chose. Une très bonne chose. Cependant, vu la situation, notre infériorité numérique et l'isolement de ce site qui, au regard de l'originalité de cette histoire, fait fortement penser à un piège, nous ferions mieux de prévoir un solide plan avant de... Commissaire ? Merde, il est parti.
Ma pauvre, c'est la réaction la plus fréquente lorsque je parle de mon problème. Pourtant, ce n'est ni une maladie grave, ni une maladie incurable. Mon problème, c'est que je ne couche pas avec les garçons, car cela provoque des douleurs ou au mieux, rien du tout. Enfin, quand je dis que je ne couche pas, ce n'est pas vrai, il n'y a juste pas pénétration. Mais aujourd'hui, dans notre société, c'est synonyme de ne rien faire ou encore
abstinence. J'ai constaté que l'orgasme ressenti est très différent lorsqu'il y a pénétration que lorsqu'il n'y en a pas. L'orgasme sans pénétration est...
Lorsque je me suis retrouvé dans un lit avec une fille, il fallait être à la hauteur.
Par contre, il peut y avoir
il fallait la pénétrer.
Plaisir. L'orgasme avec pénétration est plus complexe à obtenir, mais il est plus profond, plus complet. Il emporte
la sexualité à
vouloir pénétrer ou être pénétré.
L'attendre, le provoquer, l'éviter, l'investir et le surinvestir. C'est un rituel social complexe. Je suis influencée par l'imaginaire collectif.
Ma compagne ne déteste
Internet,
pas la pénétration,
moment,
mais elle préfère de loin les cunilingus.
Très basique et
c'est seulement là qu'elle a des
orgasmes
incroyables.
L'homme
j'ai donc
prend
évolué,
et fait jouer la
je pars d'un postulat pro-pénétration. Et ça a rendu notre sexualité plus riche.
Je suis une femme de 25 ans,
de ne pas se focaliser sur la pénétration.
Je ressens du plaisir pendant les préliminaires, mais je me bloque à partir du moment où il y a pénétration. Celle-ci est impossible.
Evening walk, leaves rustling, wind blowing, watching moon, alone. A voice.
Hide! Huntsman, shadow, unsafe, panic, terror.
Really alone?
Fear, anxiety,
reality or imagination?
A girl who's running,
the moon saw it.
Alone in a forest by
the
night.
Trees
a girl
now.
Who's running, chased by a huntsman alone.
A red colored forest.
A girl who's running, chased by a huntsman alone.
No
in a forest
more.
By night.
Je marchais sur le long d'une berge, en fait, il y avait une barque. Et en fait, il y avait une dame avec des cheveux blancs. Je me suis approché d'elle, et en fait, quand elle a ouvert les yeux, elle avait les yeux révulsés en arrière, avec un bébé mort, elle me l'a tendu, et le bébé s'est mis à hurler. Voilà.
Quel est le rêve le plus farfelu que vous ayez fait ?
Je pense que celui de cette nuit est très bien. J'ai rêvé que j'étais un humanoïdo palmipède, quelque chose du genre, qui devait sauver les camions à bord de la dérive sur des falaises, en fait. Et du coup, le camion rebondissait, j'arrivais avec mes pattes palmées et je devais le remettre sur la route, paf, pour qu'il puisse repartir vers son chemin, son inconnu. Je ne sais pas où, en fait. J'ai réussi avec un, les autres s'écroulaient autour, c'est bizarre.
Mon père, c'était Indiana Jones et j'avais fait un rêve et il était enfermé dans un trou avec plein de serpents. Et moi, je voulais le sauver, sauf qu'en fait, j'avais gaillé peur. Et les serpents, ils ont voulu me tuer et après, ils ont bouffé mon père. Et genre, après, les serpents, ils se sont plantés dans le mur, ils ont fait une échelle et je suis ressorti et je me suis réveillé.
Le rêve le plus farfelu que tu aies fait ?
Alors en fait, j'étais sur un parking et il y avait quelqu'un qui m'avait versé de l'huile de sardine dessus. Et en fait, je me faisais courser par un requin et il voulait me bouffer les jambes. Et voilà.
J'ai surfé avec des dauphins et nagé avec un crocodile. C'était cool.
Un rêve complètement farfelu, monsieur.
Ben, j'ai rêvé il y a 3 semaines que ma femme venait d'avoir un bébé à 67 ans.
C'était quoi ton cauchemar ? Il y avait un mec avec un vieux pull vert et rouge. Et tu as vu ses ongles ? Oui, il n'arrêtait pas de les faire crisser sur tout. C'était pas des ongles ni des griffes, c'était carrément des lames de couteau qu'il avait au bout des doigts. J'oublierai jamais le bruit que ça faisait. Ça faisait comme ça. Non, si. On a fait le même cauchemar, toutes les deux.
Went down to the river Jordan, where John baptized three.
Identité nationale, je sais que ma nationalité est française. Je suis français, j'ai pas de doute sur ça. Merci, certains veulent en douter. Mais j'ai du mal à me sentir ou même à sentir cette fierté française que beaucoup prêchent par un moment. J'ai du mal à le ressentir parce que du coup, comme je le disais précédemment, il y a un peu ce décalage avec la Guadeloupe. Il y a aussi le fait qu'on a l'impression de ne pas être concerné par beaucoup de choses. Je ne sais pas, même si j'ai toujours été scolarisé dans des institutions françaises, même si j'ai toujours connu que la France finalement, eh bien moi... Ma patrie aurait tendance à être la Guadeloupe, même si je vois ses défauts, même si je vois tout ce qui ne va pas. J'ai tendance à me sentir en Guadeloupéen et en Guadeloupéen français éventuellement, mais c'est pas forcément compatible dit comme ça. Il y a la notion d'identité nationale française est peut-être moins fortement présente en moi.
Moi, personnellement, je pense que l'immigration, ça représente un truc de positif. J'envisage pas un côté négatif parce que c'est un plus pour la France. Déjà, le fait que l'on vienne ici pour apprendre, on apporte un plus à la France. Mais au cas où on retourne chez nous, le fait de promouvoir les diplômes français là-bas, c'est un avantage pour la France, quoi.
Des heures que nous marchons. Le souffle chaud du sable nous accompagne, témoin de nos peines, de nos douleurs. Je tiens fort la main de ma petite sœur, je ne veux pas la perdre elle aussi. J'ai 15 ans, elle 12, et pourtant nos vies sont déjà saturées de tristesse et d'amertume. Nous suivons grand-père. Il est comme une encre dans ce désert immense et écrasant. Et pourtant la brûlure du soleil est bien douce comparée au massacre sauvage que nous fuyons. Le jour décline. La lumière est belle, d'une étonnante clarté. Bientôt, le soleil laissera place à la nuit glaciale parsemée d'étoiles. Je suis sûre qu'elles sont moins nombreuses que les cadavres qui jonchent ma ville, abandonnées. Nos corps sont épuisés par la marche et le poids des émotions. Nos épaules sont courbées, nos visages rouges où se mêlent sueur et larmes séchées. Grand-père s'assoit, nous aussi. Ce doit être l'énergie du désespoir, l'instinct de survie qui nourrit ce corps émacié. « N'abandonne pas la lutte », m'avait-il glissé. « Ne les laisse pas gagner. » Les rides qui labourent son visage sont comme la terre creusée de misère que nous fuyons. Un lieu meurtri, couvert de cicatrices puantes, de boue et de sang. Des frissons balaient nos corps dans la nuit froide. Mes vêtements déchirés sentent la fumée, l'essence, le sang, la mort. Là-bas, au loin, derrière, je laisse tout. Ma maison, mon chat, ceux que j'aime et qui ne sont plus, tout. Pourquoi vivons-nous alors que sont morts? Comment reconstruire sur des cendres? Là-bas, au loin, derrière, je sais que des hommes sont plus fous que des chiens affamés. Leurs paroles sont des cris qui hantent mon esprit. Croiser leurs regards, c'est voir la mort. Mais qui sont ces hommes? Des silhouettes, vagues fantômes possédés de démence. Ils ont abreuvé le sol de sang. Demain, nous continuerons d'avancer. Mais vers où? Vers quoi? J'ai vu tant d'horreurs que je ne crois plus en rien. Tout peut arriver, je ne serai pas étonnée. Je tiens fort la main de ma petite sœur. Au fond de moi, je sais qu'un jour ce cauchemar cessera. Alors je ferme les yeux et je prie pour que plus jamais l'humanité ne se roule encore une fois dans une telle misère. Parce que le monde est beau quand il est en paix.
C'est où la maison? Où est-ce qu'on se sent chez soi? Dans quelle ville? Dans quelle pièce? Dans quel poème? Avec quels objets? Avec quels mots? Avec quelle personne? En ce moment, mon chez-moi physique, c'est Bordeaux. C'est là que je dors, que j'habite, que je vis. Je me sens chez moi dans mon appartement, entouré de mes livres, de mes objets, de mes listes. Mais je ne me sens pas chez moi dans la ville. Je ne la connais pas. Je n'y ai pas marché la nuit. Je n'y ai vécu que quelques semaines. Elle est encore hostile. Je suis en train de rentrer à Compiègne, la ville où je suis née et où j'ai grandi. Je ne dis pas chez moi. Je dis chez mes parents, à Compiègne. J'ai une drôle de relation à cette ville. Je ne sais pas si je m'y sens chez moi. Et ce, malgré les presque 18 ans que j'y ai vécu. Mais je rentre, donc. Et rentrer, ça veut déjà dire retourner chez soi, non? Je suis dans ma chambre, à Compiègne. C'est toujours ma chambre quand je suis là. Quand je ne suis pas là, c'est un bureau pour mon père ou ma sœur, une chambre pour les amis de passage. Ce n'est plus ma chambre d'enfant ou d'ado, j'ai emmené les posters avec moi. Les livres que j'y ai laissés sont cachés dans une armoire. Les objets qui y restent ne sont plus vraiment les miens. Alors, quand je rentre, j'étale mes affaires, je les expose comme des totems. Je fais un nid dans la couette pour que le chat vienne dormir avec moi et pour me sentir bien. J'ai du mal à définir ce que je cherche quand je parle de ce sujet, que je pose des questions. J'en parle autour de moi, à mes amis, à ma famille. Vous, où est-ce que vous vous sentez chez vous ?
Un calme étouffant et brûlant règne à l'heure creuse de l'après-midi dans le royaume de Shiiba. La petite fille du soleil semble être la seule encore vivante et vibrante, résistant aux brûlures du sable et à l'engourdissement de la chaleur. Seule dans ce désert, reine de son oasis, ses terres s'étendent à l'infini. Accroupie à l'ombre des papyrus, elle observe silencieusement, avec son regard plein d'amour, ses arbres à elle, son sable à elle, son étang à elle, ses oiseaux à elle, endormis. Soudain, elle bondit, un petit branchage à la main. Elle joue, hilare, roule par terre, saute dans l'étang, éclabousse. Puis soudain, reprend son calme, son esprit happé par quelques détails minuscules, mais tellement fascinants, d'un tas de sable, d'une arabesque, d'une feuille ou d'une fébrile araignée s'accrochant à sa toile. Shiiba a une démarche animale. Elle est sauvage, sale et sapotanée. Son regard est vif, perçant, féroce. Puis, un craquement. Ses yeux fusent, son petit corps se tend. À quelques mètres de là, la face sublime et mortelle d'une lionne, ramassée à terre, qui la fixe d'un regard qui lui dit « meurs ou vis ». Le vertige la prend, sa tête vibre, et en elle tout se braque et s'aiguise. Désormais, deux bêtes se font face.
Au chaud dans la vieille Fiat, il n'entendait plus les vagues. Ne voyait plus ni les pins, ni les éclairages des quelques réverbères, ni la lumière du phare au loin. Elle défit son pantalon pour découvrir ses testicules qu'elle lécha, mordilla aussitôt. Ses doigts continuaient leur danse sur son pénis, compressé dans un couloir brûlant. Il était envahi par le plaisir, il murmurait, inspirait, glissait sa langue le long de ses lèvres. Elle aspira ses testicules doucement, précisément. Elle voulait qu'il explose.
Est-ce une souffrance, un esprit, un mélange des deux ?
Allez, j'en remets un peu. Le four. Maintenant, le four. Ne surtout pas l'oublier. Faudra 3 doses. Pas plus, pas moins. choses bien précises surtout. Le robot sur 4. Oui. 4. Bien mélangé. Dans un grand plat. Deux assiettes, deux verres, deux fourchettes, deux couteaux, un bouquet.
Tout sera prêt quand il rentrera. Tout sera prêt.
Pincée à grande eau, une pincée, ou deux, ou trois, ou quatre. Poubelle.